auditeurs partout en Côte d'Ivoire. En ce moment, Canal Plus vous offre 15 jours à tout Canal Plus pour tout réabonnement à votre formule habituelle.
Le journal de 18h. Paul Bénédicte Bolou.
Il est 18h, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de ce mercredi 11 septembre. La deuxième édition d'Abidjan Border Forum, prévue du 23 au 25 octobre, a été officiellement lancée hier, mardi, à Abidjan Plateau, autour du thème « Frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité ». Le rendez-vous du producteur et de consommateur, le SAPMAP, qui se tient sur 9 jours à Abidjan, met en lumière l'agriculture africaine et les défis liés à la transformation locale des matières premières pour assurer une économie durable et prospère. Hors de nos frontières, inondation au Nigeria, au moins 30 morts et 400 000 déplacés. À Maïdougouri, au lendemain des pluies diluviennes de la rupture d'un barrage, l'annonce a été faite aujourd'hui mercredi par le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria. Voilà pour l'essentiel. La Côte d'Ivoire accueillera la deuxième édition du Abidjan Border Forum qui se tiendra du 23 au 25 octobre 2024 au parc d'exposition d'Abidjan. Cette rencontre va réunir les acteurs des zones frontalières autour du thème frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité. Les détails avec Diakalidia Konaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire.
Hier était le lancement de cette deuxième édition de co-organisation de Abidjan Border Forum.
Vous avez choisi pour thème frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité. Quel rapprochement entre ces thèmes et la gestion des frontières?
La gestion de frontières, c'est la gestion des territoires, c'est la gouvernance des territoires. Et les frontières sont des espaces à cheval en deux souverainetés, en deux États. Donc la gestion de cet espace frontalier ou transfrontalier pose souvent de gros problèmes, et surtout quand il y a des ressources naturelles que les voisins, les pays ont en partage. Ça peut être des cours d'eau, ça peut être des forêts classées, ça peut être des réserves aquatiques. Donc il y a toutes sortes de ressources naturelles que les États en partagent. Donc en raison de l'absence des États dans cette zone devient l'antre des entrepreneurs de la violence. Donc pour trouver des pistes de solutions à ces problèmes-là, nous allons sensibiliser, nous allons inviter les experts, discuter des questions liées à ces ressources transfrontalières et comment les États peuvent prendre des dispositions pour assurer une meilleure gouvernance, une gouvernance bilatérale ou trilatérale conformément aux différentes conventions internationales en matière de gestion des ressources transfrontalières.
Diakalidia Konaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Le comité central du FPI, réuni le 7 septembre dans le cadre de sa troisième session ordinaire, a officialisé la rupture de son accord de partenariat signé en mai 2023 avec le RHDP. Un accord qui avait pour objectif de promouvoir la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie est jugé préjudiciable, sans objectif et caduque selon le FPI. Pour le politologue et enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké, Dr Tawa Netton, ce divorce est sans surprise au regard des idéologies divergentes des deux formations politiques, son argumentaire.
Les deux partis politiques n'ont jamais été véritablement dans un accord profond. Il y avait une envie d'insister du président Afinguessan et du FPI après le choc qu'il a reçu au retour de son ex-mentor. En 2021, le partenariat, c'est aussi une manière de se sortir de l'isolation politique. Donc, c'était une manière d'exister, mais le RHDP ne l'a jamais totalement accepté parce que ces deux partis politiques qui sont idéologiquement opposés, donc le divorce, il ne faut pas s'en étonner. Mais le divorce-là intervient dans un contexte aussi de l'appel de Benoît. Et Affirmé l'a dit que son divorce avec Laurent Gbagbo, c'était un divorce politique, que la réconciliation pouvait aussi avoir lieu à tout moment. Personne ne s'en étonne. Donc, je pense qu'en le faisant et en rompant avec RHDP, en l'instant, lui, a l'appel de Benoît, il est dans sa logique. C'est un homme de gauche.
Et donc, parlons de conséquences du divorce FPI-RHDP. À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre?
Je sais que le partenariat a permis à quelques cadres du FPI d'être des agents, mais est-ce que c'est possible que les conflits entre les différents conseils municipaux surgissent? C'est pas exclu, mais ce sera des conflits de basse intensité, puisque en réalité, dans les différentes municipalités, le RDP a le leadership administratif.
Docteur Tawa Newton, docteur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Bois, qui a été joint par Linda Ballier. La cérémonie d'investiture du nouveau président des unions de la jeunesse communale de Zouaounia s'est tenue récemment en présence des autorités administratives, coutumières et l'ensemble de la fêtière de la jeunesse du département. Occasion pour le premier vice-président du conseil régional du Tongpi, Wei Mela Gaston, aimé d'inviter la jeunesse à maintenir un climat de paix, gage de stabilité et de développement. Les échos avec Stéphane Adams.
Cette installation officielle et publique du nouveau président communal de Zouaounia a été l'occasion du représentant du président du conseil régional du Tongpi, Albert Mabli-Touakeus, de faire cette adresse à l'assistance. Oui, mais là, Gaston Aimé.
Messieurs les différents responsables, anciens et nouveaux, de la jeunesse de Zouaounia, le président Mabli, il vous exhorte à continuer dans la cohésion, à vous aimer les uns les autres, à ne pas faire de différence entre vous pour maintenir la paix dans ce département frontalier.
Le maintien de cette paix que justifie le nouveau président des unions de jeunesse des Zouaouniens investis, Baka Baké.
Ce peu de mots suffit à vous, autorités administratives et coutumières, vos conseils avisés et votre implication lors des échéances électorales du 20 avril 2024 nous ont permis d'assister à des élections apaisées, inclusives, transparentes et sans incident dans la commune de Zouaounia.
Puis s'en sont suivis ses engagements.
À ma qualité de président des unions de jeunesse de Zouaounia, je me suis fixé des objectifs, sachant que l'initiative est ma commune, mon combat. Celui d'aider la jeunesse au civisme, permettre la cohésion entre les jeunes sans tenir compte du groupe ethnique ni de l'apparence politique. Celui d'être l'ambassadeur de la jeunesse auprès des autorités. J'appelle à la communion effective et totale de tous les jeunes de la commune pour la réussite de cette noble mission qui nous est assignée.
Rappelons que Zouaounia reste tout de même un vaste chantier de développement. Stéphane Adams, de retour de Zouaounia, Radio de la Paix.
Nous l'annoncions à l'entame de cette édition, le Salon international pour la promotion et l'industrialisation des pays producteurs et consommateurs de matières premières agricoles, la SAPMAP, se tient en ce moment à Abidjan et ce jusqu'au 18 septembre prochain. Cette rencontre vise à fédérer toutes les parties prenantes pour aborder trois grandes questions que sont l'Afrique, son industrialisation et son agriculture. Les détails avec Mata Touré.
Le SAPMAP 2024 se veut un rendez-vous promotionnel, commercial, culturel, éducatif, environnemental même, des pays producteurs et consommateurs des matières premières agricoles, comme le cacao, le café, la cola, le coton, l'anacarde, le karité et les VA. Au programme des rencontres, des panels, en somme, des opportunités pour échanger, nouer des partenariats et transférer des technologies entre les pays producteurs et consommateurs. Kwasi Chantal en est le commissaire général.
Notre rêve était de fédérer l'ensemble des parties prenantes, gouvernement, institutionnels, professionnels, société civile, jeunesse et médias, pour porter ensemble vers trois questions fortes: l'Afrique, son industrialisation et son agriculture. Nous devons réfléchir et agir ensemble à l'effet de résoudre main dans la main nos problèmes communs, gagner davantage sur les chaînes de valeur de nos productions agricoles, dotant ainsi durablement les économies africaines d'une embellie au profit de sa croissance économique et partant du mieux-être de sa population.
Sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui voilà une occasion de mutualiser des expertises d'Afrique et d'ailleurs sur des problématiques que rencontrent les pays producteurs et consommateurs. Antoine Anneau est le représentant du ministère.
Une excellente initiative et une très grande opportunité pour mener les réflexions sur l'industrialisation des pays africains.
Le SAPMAP 2024 se tient du 10 au 18 septembre sur un espace de plus de 10 000 m² aménagé et approprié pour la circonstance.
C'est aussi l'actualité, on en parle dans cette édition conférence des ministres africains de l'environnement. Lors de la 10e session qui s'est tenue du 30 août au 6 septembre à Abidjan, les ministres africains de l'environnement ont formulé plusieurs recommandations pour aborder les défis liés au changement climatique. Jean-Mélène Bitti revient sur quelques points clés de la conclusion.
Ces recommandations visent à renforcer l'engagement des nations africaines dans la lutte contre les changements climatiques, tout en promouvant un développement durable tournant autour de 30 axes majeurs. Les ministres soulignent l'importance de mettre en œuvre les résultats du bilan mondial adopté lors de la 28e session de la conférence des parties COP28 afin de relever les défis du développement durable en Afrique tout en visant une transition juste vers un développement à faible émission de carbone. Aussi, un appel a été lancé pour définir un nouvel objectif collectif ambitieux et axé sur les résultats lors de la 29e session de la COP. Cet objectif doit soutenir la transition des pays en développement et prendre en compte les défis économiques actuels. Les ministres préconisent qu'un montant minimum de 1300 milliards de dollars par an soit affecté au financement de l'action climatique avec une attention particulière sur les subventions et les conditions favorables pour l'adaptation. Ils ont aussi invité les pays développés à respecter leur engagement en matière de financement pour répondre aux besoins croissants d'adaptation dans les pays en développement. Les ministres africains de l'environnement, dans la déclaration dite d'Abidjan, s'opposent aux mesures commerciales unilatérales liées au climat, comme les taxes carbone aux frontières qui pourraient restreindre le commerce international de manière injustifiable. Concernant justement le marché du carbone, l'Afrique considère comme une opportunité pour un développement durable et résilient. Elle appelle à des règles solides pour garantir l'intégrité environnementale.
Enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, afin de mieux s'organiser en étant ensemble, les différents syndicats des enseignants et chercheurs des universités de Côte d'Ivoire ont mis en place 9 syndicats pour fédérer leurs énergies en unité d'action syndicale. Pour en discuter, ils ont tenu une rencontre le jeudi 5 septembre à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Pascal Oulahi, membre fondateur du mouvement des réformateurs en Côte d'Ivoire.
Nous avons constaté que jusque-là, notre division nous a desservi et par conséquent, nous avons jugé utile de réunir nos forces syndicales en vue d'une unité d'action par rapport à nos revendications qui jusque-là n'ont pas été satisfaites. Nous envisageons même une grève. Voilà, parce que nous pensons que le gouvernement et notre ministère de tutelle restent indifférents à nos revendications partout, dans tous les pays. Nos collègues de l'étranger ont discuté après-midi. Cette fois-ci, nous ne voulons pas discuter avec un ministre. Nous voulons discuter directement avec le président Ouattara. S'il nous convient, on revient.
De quoi est-ce que vous vous plaignez exactement?
Les différents points de notre revendication sont clairs. On veut l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Nous sommes sous-payés. On est mal logés. La Côte d'Ivoire, qui est la locomotive de la sous-région, sur un plan économique, ce pays-là, à ses enseignants, ils sont logés dans les cours communes. C'est inacceptable.
Pascal Oulahi, membre fondateur du mouvement des réformateurs en Côte d'Ivoire, a été joint par Clara Da Costa. Dans la région du Bounkani, l'ONG Les Flamboyants de Doropo a organisé récemment une cérémonie de remise de parchemin aux élèves et étudiants en fin de stage d'immersion. Ce stage de formation rémunéré par l'agence Emploi Jeune permet à des élèves de familles économiquement faibles de soutenir leurs parents dans l'achat des fournitures scolaires. Les détails avec Jérôme Kouassi, notre correspondant dans le Bounkani.
Le stage d'immersion a permis à certains jeunes de se soustraire de l'amusement, reconnaît Bamba Myriam, élève de classe terminale.
On n'allait pas ouvrir nos cahiers pour ne pas étudier quoi.
Ou à d'autres de fréquenter les sites d'or, ici au lieu de prostitution organisée, ajoute Palais Saint-François.
Puis avoir des maladies parce que la prostitution est développée sur les sites d'orpaillage.
Ces jeunes ont pu être sainement occupés à l'ONG à renforcer leurs compétences de vie courante. Bamba Myriam, une stagiaire.
Nous avons appris qu'est-ce que c'est la tuberculose, comment rédiger un rapport lab-à-palab, comment se tenir en communauté.
Des compétences psychosociales à mettre à contribution pour sensibiliser leur père, a conseillé Balou Alexis, chef de projet.
Droits de l'homme, les VBG, les harcèlements, les grossesses précoces et tout ça, vous avez appris ça ici. Il faut que vous transmettiez
ces connaissances-là à vos camarades.
Avec un peu de revenu au final qui permettra à ces jeunes de familles à faible revenu de faire face aux charges scolaires. Le cas de Kwakoko, élève du cycle secondaire.
Revenu que je vais aller montrer à mes parents pour qu'ils puissent compléter pour acheter mes fournitures pour la rentrée scolaire. Je voudrais remercier l'État de Côte d'Ivoire d'avoir organisé ce projet immersion-là pour nous apprendre plusieurs choses de la vie qui pourront aider certainement des enfants à aller à l'école parce qu'ils auront de quoi acheter leurs fournitures.
L'ONG Les Flamboyants, qui intervient dans les domaines de santé, éducation et protection, a été lauréate du prix national d'excellence 2023 du meilleur promoteur du développement communautaire. Jérôme Kwasi Kru, Bouna, Radio de la Paix.
Rendons-nous à Diabo. La rentrée scolaire a débuté le 9 septembre sur toute l'étendue du territoire, mais seulement voilà, dont la sous-préfecture de Diabo, à une vingtaine de kilomètres de Boaké. L'on enregistre des effectifs pléthoriques dans certaines classes. Voilà le constat de Joseph Assalé, notre correspondant sur place.
Dans la ville de Diabo, région de Boaké, les parents continuent de faire le pied de grue devant les portes des directeurs d'école pour inscrire leur progéniture en classe de CP1. Bakayoko Djeneba, directrice de l'école 1 du groupe scolaire Nana Kwasi Baté de Diabo.
L'effectif est pléthorique. Au CP1, on a 100 élèves. Au CP2, on a 88. CE1, 78. CE2, ma classe, j'ai 67. Le nombre est pléthorique. Il faut une troisième école. Non, vraiment. Au CP1, ça s'est 4-4 sur les bancs. Le travail ne peut pas être efficace.
Dans le secteur de la localité de Langui-Bounou, les salles de classe affichent complet avec souvent 120 élèves dans des classes, Soro Drissa, enseignant.
L'année dernière où on a pu avoir des préaux, mais cette année, ce sera encore difficile que ces préaux-là puissent exister. Les préaux avaient été décoiffés par la pluie et le vent, mais jusqu'à présent, rien n'y fait. Donc, on lance un appel aux cadres, aux autorités, à avoir quand même des bâtiments.
Bounan Kwadio, conseil pédagogique d'instruction de l'IEP. Quand bien même que souvent il y a des tarbans, mais où est-ce qu'il faut déposer ces tarbans? La salle de classe est exiguë, il n'y a plus de nouveaux bâtiments. Donc nous sommes tenus de maintenir ces élèves-là à 3 ou à 4 sur le même banc.
Malgré la capacité d'accueil insuffisante, les parents d'élèves continuent d'affluer. À notre passage le 10 septembre dans le groupe scolaire Nana Kwasi Baté de Diabo, plusieurs parents d'élèves rencontrés n'arrêtaient de plaider pour l'inscription de leurs enfants. Joseph Assalé, Diabo, Radio de la Paix.
En page internationale, au Nigeria, les inondations massives qui ont submergé en début de semaine la ville de Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria ont fait au moins 30 morts et déplacé plus de 400 000 personnes, annonce faite ce mercredi. Des milliers de maisons ont été submergées par la montée rapide des eaux provoquée par la rupture du barrage d'Alo. Au moins au lendemain des pluies diluviennes, au moins 30 morts ont été retrouvés, a déclaré le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences. Le bilan pourrait s'alourdir, a indiqué la directrice générale de l'agence, alors que les secours sont toujours à pied d'œuvre. La capitale régionale dans l'état de Borno est touchée par l'une des pires inondations depuis 30 ans, a indiqué l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Nigeria. Et puis le président de la Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, dont l'élection avait été contestée par ses opposants, a déclaré aujourd'hui mercredi qu'il ne briguerait pas le second mandat après celui en cours jusqu'en 2025. Il a dit, et je cite, « Je ne serai pas remplacé par un bandit », a-t-il dit à propos de ses opposants. Cette déclaration est inattendue car des mouvements s'étaient formés en faveur de sa candidature. La durée du mandat actuel et la date de la prochaine présidentielle sont sujettes à controverse. Pour rappel, après l'élection de décembre 2019, Embalo, général de réserve de 51 ans, revendiquant la victoire, s'était fait investir en février 2020 pour 5 ans à la tête de la Guinée-Bissau. Fin de ce journal, le rappel de l'essentiel. La deuxième édition d'Abidjan Border Forum, prévue du 23 au 25 octobre, a été officiellement lancée hier mardi à Abidjan Plateau autour du thème « Frontières vertes entre ressources naturelles, partagées et défis de sécurité ». Le rendez-vous de producteurs et consommateurs, le SAPMAP, qui se tient sur 9 jours à Abidjan, met en lumière l'agriculture africaine et les défis liés à la transformation locale des matières premières pour assurer une économie durable et prospère. C'est la fin de ce journal. La rédaction sera de retour demain jeudi dès 7h sur les antennes de Radio de la Paix. Merci et bonsoir.